Nous allons pouvoir reprendre avec la dernière conférence. Merci Frère Jean-Miguel pour clore cette journée de conférence. Pour rappel, après la conférence du frère, il y aura un temps de questions-réponses. Et après ce temps de questions-réponses, il y aura un temps de dédicace au magasin des pèlerins situé en face de la boutique, où Louis, un charmant homme, vous accueillera pour ce temps de dédicace. Merci.
Merci à vous. Tout à l'heure, au repas, quelqu'un a fait cette remarque que des prêtres peuvent se montrer très réticents par rapport à ces expériences de mort imminente. Je pense que ça tient au fait que peu de prêtres ont été en contact avec des personnes qui leur ont parlé de cela. Pour cela que je pense que c'est important que ceux qui ont ici plusieurs personnes, il y a Florian, mais je parle avec quelqu'un d'autre ici qui a fait une expérience de mort imminente. Je pense que c'est important d'en parler aux prêtres, qu'ils sachent que ça existe. Parce qu'il y a des prêtres qui, sauf les prêtres qui sont auprès de grands malades, de personnes accidentées ou de personnes en fin de vie, entendent parler de cela, sinon ils peuvent être complètement loin de cela, et du coup il peut y avoir des comportements méfiants qui peuvent blesser aussi les personnes. Mon premier contact, je n'ai pas eu l'expérience de mort imminente personnellement, mais j'ai eu des contacts répétés avec des personnes qui ont eu. Le premier contact est très ancien. J'ai aujourd'hui 77 ans. Quand je dis aujourd'hui, c'est le 12 juin. C'est gentil. Je devais avoir 26 ans. Je venais d'être ordonné prêtre. Quand un de mes camarades d'études dominicales, de formation dominicale, qui n'avait pas poursuivi, il s'était arrêté tout à fait légitimement avant de faire les vœux perpétuels, m'a contacté parce qu'il m'a dit, m'a téléphoné, « Maman a un cancer du sein qui a très mal tourné et elle va mourir. Elle est très très mal et les médecins n'ont plus aucun espoir. » Et il me dit, est-ce que tu peux venir lui parler de Dieu, la préparer à la mort? Je savais que ça serait difficile parce que c'était une famille absolument charmante. Il était fils unique. Ses parents étaient il y avait encore dans les années 60 une vraie classe ouvrière, je dirais, c'était des ouvriers parisiens. Mais déjà plusieurs générations de non-baptisés, ce qui était relativement rare quand même à l'époque, mais dans le milieu ouvrier ça pouvait exister. Aucune hostilité contre l'Église, contre la foi, etc., mais simplement totale ignorance, déconnexion. Alors je lui dis, écoute, demande-lui. Moi j'avais été déjà plusieurs fois chez lui. Les parents m'avaient accueilli toujours avec une extrême gentillesse. Sa mère était une très bonne cuisinière et se faisait plaisir quand elle recevait les anciens camarades de son fils de nous faire plaisir, de nous gâter. Mais elle était complètement étrangère. Alors j'ai dit, écoute, commence par poser la question à ta mère parce que tâter un peu le terrain. Je ne m'attendais pas à de l'hostilité. Et effectivement, quand il lui a posé la question, elle lui a répondu, mais écoute, ça me fera très plaisir de le recevoir, mais la religion, la foi et tout ça, c'est totalement étranger à moi. C'est une femme merveilleuse, très bonne, enfin, un couple formidable. Alors, mon ami me dit ça, je crois qu'il faut accepter les choses comme ça. Le Seigneur l'a conduit vers lui à travers toute la bonté qu'elle a manifestée dans sa vie, s'il ne donne pas la foi est une grâce aussi, et on ne peut pas forcer les choses. D'accord, donc il accepte, et quelques jours après, coup de téléphone, maman est tombée dans le coma. Passe un mois où elle était toujours dans le coma. Et de nouveau un coup de téléphone de mon ami, viens vite, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Maman est sortie du coma, elle a ouvert les yeux, elle m'a vu et elle m'a dit, appelle tout de suite ton ami prêtre, car je veux être baptisé. Les derniers mots qu'elle avait dit au moment de tomber dans le coma, m'a dit mon ami, c'est « Et maintenant, je m'en vais rejoindre les anges. » Elle m'a dit, moi je suis stupéfait parce que le mot « ange », je ne l'ai jamais entendu dans la bouche de ma mère. C'est personne qui était vraiment horizontal, quoi. La vie de d'ici-bas. L'au-delà, le surnaturel, etc., c'était pour elle vraiment inconcevable. Et elle sort de ça. Donc je me précipite, parce que j'habitais à l'extérieur de Paris, et je la baptise, je la confirme, je lui donne l'Eucharistie, l'onction des malades, enfin, je crois que j'ai fait. Elle a subi tout ça comme une enfant. Je pense qu'elle comprenait à moitié les choses qui étaient question, et ce n'était pas le moment de lui faire une catéchèse approfondie. Elle est morte 2 jours après. Et je ne me suis pas senti le droit, j'étais très 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 impressionné, très interloqué, de l'interroger sur... Parce qu'il s'était quand même passé quelque chose dans ce coma. Vous voyez, une personne totalement étrangère, qui dit à son fils « Non, vraiment, c'est pas la peine que ton ami vienne » et qui ouvre les yeux et la première chose qu'elle demande, c'est ça. Donc, ça, vous voyez, 26 ans, j'étais prêtre depuis un an, même pas. C'était resté en moi. Des années après, là nous sommes en 69, je pense, j'étais en 69 ou peut-être 70, au moins 10 ans après, je me retrouve aumônier de centre anticancéreux. Donc, visitant toutes les chambres qui m'acceptaient, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, presque pas de souvenirs de refus. Évidemment, à chaque fois, on s'adapte. Hein. Parfois, c'est une visite de simple amitié. Donc, on essaye d'aller un peu plus loin dans la mesure où les personnes acceptent. Et alors là, je me trouve avec beaucoup de gens qui sont en train d'arriver au dernier jour. Hein. Beaucoup mouraient dans ce centre. Ils avaient été traités, mais les traitements, surtout c'était 1980, les traitements étaient beaucoup moins développés, beaucoup moins efficaces aujourd'hui. Donc il y avait beaucoup de décès quand même dans ce centre. J'ai assisté d'ailleurs à des morts lucides. C'est très impressionnant. La personne meurt en toute lucidité. Je crains que ce soit de plus en plus rare aujourd'hui, avec tous les produits et tout ça qu'on met pour les calmer, etc. J'ai vraiment, je ne peux pas oublier le dernier regard des mourants. C'est un dernier regard. Il paraît que le premier regard du petit enfant aussi, quand il ouvre les yeux, est très impressionnant. Mais le dernier regard, c'est un regard d'un immense étonnement. D'un immense, c'est pas la peur, c'est pas non plus la joie ou le bonheur, c'est un immense étonnement. Ils ouvrent très très grand les yeux et ça se referme et donne le dernier soupir. J'ai eu la grâce, parce que je considère ça comme une très grande grâce. Vous savez, parfois, en les tenant pour qu'ils puissent respirer mieux dans l'agonie, d'avoir vu des agonies lucides. Mais aussi, bien sûr, j'ai recueilli beaucoup de... Comme on y venait régulièrement, qui nous voyaient, on les suivait. C'était des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, et ils revenaient tous les mois, où les rayons, ils restaient 2 mois, 3 mois pour des rayons, et donc on les connaissait bien. Et là, il y a des choses, nous étions trois religieux à faire ces visites, et tous les trois ont eu les mêmes expériences, puisqu'on échangeait entre nous. Et ce qui nous frappait, c'est que quand les personnes arrivaient vraiment en phase tout à fait terminale, quand ils nous parlaient de manière souvent très lucide et très profonde, mais ils ne nous regardaient plus. Ils regardaient un point de la pièce, si vous voulez, mais qu'est-ce qu'ils voyaient ? Un point de la pièce de manière très fixe, et il nous parlait. Voilà, comme s'il y avait une troisième personne, si vous voulez, qui était là. Et là, j'ai interrogé quand même, parce que c'était faisable. C'était pas les derniers moments de la mort, comme Notre-Dame. C'était des jours, parfois des semaines, quand même, avant. Et souvent, ils m'ont dit, je vois ma mère, ou je vois telle personne aimée. Et elle me dit, je pense à quelqu'un qui avait très peur, un monsieur qui avait très peur de mourir. Et ma mère, je vois ma mère et elle me dit, viens. Mais vous savez, ils en parlaient. Ils ne disaient pas, ma mère m'est apparue. Ils ne disaient pas les choses comme ça. C'était comme si c'était très naturel. Ils étaient là, et ils parlaient. Et ma mère m'a dit, n'aie pas peur, tu seras très bien ici. Vous voyez, des choses très simples, j'allais dire, un langage très ordinaire, ce n'était pas extraordinaire, ce n'était pas une expérience mystique. Ce que j'ai compris, c'est que, au fur et à mesure qu'on s'approche de la mort, et pas seulement le cas que nous avons vu ce matin avec le docteur Tellier ou cet après-midi avec Florian. Là, nous sommes dans des choses extrêmes, vraiment de mort clinique, de coma dépassé, etc. Enfin, dans des choses. Bon. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus large, qu'au fur et à mesure qu'on approche de la mort, la frontière entre ce monde et le monde à venir, et l'au-delà, devient comme poreuse. Pour nous, nous sommes tellement dans ce monde que, voilà, les gens ont beaucoup de mal à penser qu'il y a un au-delà, tellement l'évidence que ce monde est le monde, et il n'y a pas d'autre chose à chercher, est totalement première et fondamentale. Et là, c'est différent. Et je l'ai rapproché d'une expérience personnelle que j'ai faite. C'est l'expérience de retraite en solitude. Vous savez, déjà, pour la plupart des gens, faire retraite en silence, ils en ont peur. Après, s'ils le vivent, s'ils ont la grâce de vivre une vraie retraite en silence, c'est-à-dire pendant plusieurs jours, vraiment, on ne parle pas, mais on est ensemble avec les autres retraitants, mais c'est en silence total. Parce qu'aujourd'hui, on appelle retraite des choses qui sont des sessions, des sessions pieuses, c'est des sessions. Les retraites en silence, en monastère, dans des lieux où on vit en silence. Mais il m'a été donné de faire à deux moments de ma vie une retraite en silence, bien sûr, mais aussi en solitude totale. C'était chez les sœurs de Bethléem, pour ne pas les nommer, qui elles-mêmes vivent comme l'idéal de la chartreuse, si vous voulez, donc elles-mêmes vivent très solitaires. Et c'était dans une chartreuse près de Béziers, une vraie chartreuse, les chartreux leur avaient passé, et ils avaient réservé une cellule de chartreux. C'est-à-dire, vous voyez, une cellule de chartreux, c'est comme une sorte d'enclos où il y a la chambre à coucher, une chambre oratoire, un jardinet pour travailler, etc. Et un tour, c'est-à-dire on passe la nourriture par un tour, c'est-à-dire par une sorte de fenestrelle où on vous glisse, on vous apporte. Vous le voyez pendant 15 jours, je n'ai pas vu âme qui vive. L'autre fois, c'était aussi auprès de ses sœurs. Et là, elle m'avait planté une tente dans la forêt, à 1 ou 2 kilomètres de leur. Et elle déposait à l'entrée de la forêt un panier avec de la nourriture chaque jour. Je le prenais. Et moi, j'étais dans ma forêt, je ne vois personne. J'avais simplement la visite de sangliers, mais qui sont très inoffensifs quand. Et là, j'ai découvert que, en solitude, la perception spirituelle se transforme. En silence, déjà, il y a une première transformation. Mais en solitude, quand vous ne voyez plus un humain, vous savez, un jour, deux jours, et jusqu'à 15 jours, c'est long. Mais c'est pas long, c'est pas pénible du tout. On est très très bien. On est extrêmement bien. Et on entre en communion avec le monde invisible. C'est-à-dire que le monde des anges, le monde des morts, etc., vous devient très proche. Vous ne pouvez plus parler avec les humains. À tel moment que j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je n'avais pas fait cette expérience avant? Il m'a dit, mais parce qu'il y avait trop de bruit et d'agitation dans ta vie. Ce n'était pas possible. C'est trop brouillé. La communication, parce que c'est une communication. Alors, je m'explique, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, je n'ai pas eu de perception charismatique supranormale. Non, mais à un niveau simplement spirituel, ordinaire, il y a eu une transformation. C'est-à-dire que ce monde m'est devenu très, très proche, comme s'il m'enveloppait. Je ne me suis absolument pas senti seul. Et j'ai lu très attentivement des témoignages, en particulier, vous savez, de ces gens qui ont été pris en otage, des Français d'ailleurs, au Liban, dans les années 80. Ils ont vécu des choses étonnantes, et ils sont sortis convertis, alors que souvent c'était des personnes qui n'étaient pas du tout religieuses, pas hostiles, mais pas religieuses, un peu comme Florian. Et ils sont sortis convertis. Parce qu'ils ont lu la Bible, c'est trouvé qu'on leur a donné la Bible, et alors ils étaient isolés, pendant des mois. Et ils sont sortis vraiment extrêmement transformés. Et dans une retraite de solitude, eh bien, incontestablement, il se passe quelque chose. C'est comme si des antennes qui ne captent rien habituellement se mettent à capter la présence du monde invisible, mais elle ne se manifestait pas sensiblement. C'était une perception intérieure, comme celle de la présence de Dieu, si vous voulez. Mais je parlais, bien sûr, au Seigneur avec une naturalité, une simplicité que je n'ai jamais connue dans mes retraites, mon oraison quotidienne, etc. C'était, et je me suis dit, mais au fond, dans la mort, on est seul. Donc, d'une certaine manière, cette expérience de la solitude, telle que peuvent la vivre les ermites, Père de Foucault, au Sahara, pendant de longues périodes, etc., ça vous transforme. Et donc, ce monde devient poreux, cette frontière devient poreuse, parce que vous êtes beaucoup moins dans le occupé et brouillé par toutes les perceptions sensibles, le bruit des conversations, de ceci, de cela. Les portables aujourd'hui, c'est effrayant. Et donc, c'est une expérience vraiment à faire, ça. Certains l'ont fait à travers les goûts. Les goûts, c'était très à la mode dans les années 80. Ça se fait encore, mais c'est beaucoup moins à la mode, en quelque sorte. Il y a eu une époque que nous avons connue où on parlait énormément des goûts. Ils vont dans le Larzac, je crois, c'est dans les causses très désertes, et ils marchent, mais à distance les uns des autres. Les personnes qui font ça, c'est une retraite en silence, en solitude, en pleine nature. Bon, ça a côté aussi physique assez costaud. Hein.
On mange que du riz et on dort à la belle étoile.
Voilà, il y a en plus le jeûne, c'est pas si j'avais pas connu ça. Il y a en plus le jeûne et puis les nuits à la belle étoile. Vous voyez, tout ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai pu, des années après, mes deux années de volerie en sortant du cancéreux, c'est 80-82, et c'est 10 ans après, en paroisse à Lyon, que j'ai pu donner, en forme de conférence, à la fois témoignage et à la fois réflexion théologique, tout ça. Et 10 ans encore après, que j'ai pu mettre ça par écrit et que ça a été publié dans un livre que vous ne trouverez malheureusement pas à la librairie parce que c'est parfois les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, mais vous pourrez le trouver très facilement par internet aux éditions de l'Emmanuel, donc c'est mon nom Jean-Miguel Garrigue. Le livre s'appelle « À l'heure de notre mort, accueillir la vie éternelle ». Et des quantités de personnes qui soit ont accompagné un être cher vers la mort, soit c'était eux-mêmes les personnes qui se préparaient à la mort qui m'ont lu et qui m'ont dit que ça les avait beaucoup aidés. Et où je prends à la fois tout ce que j'ai découvert par ma propre expérience et je le mets et je l'éclaire par la théologie, par la révélation. Alors, je voudrais maintenant, dans cette seconde partie de ma conférence, vous donner quelques éclairages qui, je pense, permettent de cadrer un peu l'interprétation, non pas le vécu, il est ce qu'il est, le vécu. Comme je crois que c'est vous-même, docteur, qui le disiez tout à l'heure à Florian, il n'y a aucune raison de mettre en cause les témoignages de tant de gens qui vont dans le même sens. Donc il faut le prendre très au sérieux au niveau du vécu. L'interprétation, là, nous allons le voir, il y a des interprétations très diverses et d'un point de vue théologique, elles ne sont pas neutres. Pourquoi elles ne sont pas neutres ? Parce que j'avais été tout de suite, parce que j'avais connu, alerté par cette expérience que j'avais eue étant très jeune prêtre, enfin, ce témoignage que j'avais reçu de cette femme, je me suis intéressé au livre du docteur Moody qui a dû sortir, vous me disiez ce matin,
en 75,
voilà, qui a été le premier livre traduit en français, en tout cas, qui a parlé de ces choses, la vie après la vie. Et J'ai été tout de suite frappé par quelque chose qui me mettait mal à l'aise dans l'interprétation. La description, il rapportait les témoignages, etc. Mais inévitablement, vous savez, quand vous vous rapportez, vous interprétez un peu. Et de même que Florian disait que voilà, pour lui, ben, cet être de lumière, ben, c'était le Christ. Mais parce que bien sûr, Florian, même s'il n'était pas un croyant pratiquant à l'époque, vous étiez quand même de tradition chrétienne. Et toute personne qui est de tradition chrétienne, ben, quand il voit quelque chose de surnaturel et de bienfaisant, bien sûr. Donc il y a inévitablement une part d'interprétation. Et en lisant le livre du docteur Moody, je sentais qu'il y avait quelque chose, une saveur incontestable de Nouvel Âge. Je ne sais pas si vous avez besoin qu'on explique le terme Nouvel Âge, New Age. C'est un courant qui a mélangé le christianisme, ce qu'on appelle un grand gnostique, c'est-à-dire qui a mélangé le christianisme avec toutes sortes de formes d'ésotérisme divers. Enfin, je fais ça pour faire bref, parce que sinon, on pourrait faire une conférence sur le Nouvel Âge. C'est assez répandu aux États-Unis, en Californie en particulier, ce Nouvel Âge, parce que ça se présentait comme un Nouvel Âge post-chrétien, d'une certaine manière. En tout cas, on garde quelque chose du christianisme, mais on le met à la sauce de beaucoup de formes d'ésotérisme, etc. Et le docteur Moody, on sentait qu'il est trempé un peu dans cette ambiance, et ça me mettait mal à l'aise. À quoi, par exemple, il y a quelques pierres de touche, hein, quelques manières de discerner quand est-ce qu'on entre dans cette interprétation type Nouvel Âge. C'est en particulier quand on insiste beaucoup sur le fait que le retour, c'est pour ça que j'ai interrogé, que je vous ai interrogé Florian tout à l'heure, que le retour est quelque chose de très pénible. Parce qu'on sent qu'il y a une conception dualiste dans la vision de l'homme. C'est-à-dire qu'au fond, l'état corporel, matériel, enferme l'âme, enferme l'esprit comme dans un tombeau. C'est très ancien, c'était déjà chez Platon, et avant chez les Iraniens, etc. Forme de dualisme. L'esprit est quelque chose de bon, et il est emprisonné dans le corps. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes, pas Florian, c'est pour ça que je l'ai interrogé, pas lui, mais d'autres ont vécu le retour comme un retour un peu dans quelque chose de pénible, de crépusculaire. Il y a un peu le retour dans ce que Platon a développé dans le fameux mythe de la caverne, dans laquelle l'homme est emprisonné en quelque sorte par son corps, par sa corporéité. Évidemment, un chrétien ne peut pas accepter ça. Ça va contre la création. Dieu vit que cela était bon, hein, la création matérielle, y compris le corps, nos premiers parents et tout ça. C'est Dieu vit que cela était bon, c'était même très bon, la Genèse comme la création. Donc on ne peut pas voir. L'esprit n'est pas dans le corps comme simplement dans un véhicule et encore moins comme dans un tombeau. Et néanmoins, c'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que disent le vécu de ces personnes qui disent que le retour dans leur corps, bon, d'abord, ils reviennent dans un corps douloureux, accidenté, souvent ou très malade. Donc, c'est déjà, évidemment, ce n'est pas une partie du plaisir. Car sur le moment, ils ont été déconnectés au niveau de la perception, de la sensibilité, d'où l'impression qu'ils ont d'être séparés de leur corps. Nous verrons que ce n'est pas vraiment une séparation au plan de l'être, mais que c'est une déconnexion de la sensibilité qui fait qu'ils ne reçoivent plus rien du corps. Donc ils sont un peu dans ce que je disais tout à l'heure à propos de la solitude. Du coup, les antennes côté spirituel se déploient à plein. Et donc, ces personnes reviennent dans un corps douloureux et ils reviennent aussi dans un corps, comme dit saint Paul, un corps de péché. Un corps de péché. Qu'est-ce que ça veut dire un corps de péché? Ça ne veut pas dire que le corps est en lui mauvais. Vous voyez, chez saint Paul, quand vous étudiez de près chez saint Paul, la corporité chez saint Paul, c'est très très intéressant. Parce qu'il dit à la fois que nous avons un corps de péché, qui nous incline au mal, et en même temps, il dit que nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors quoi? Eh bien, tout dépend si on se place du côté du vieil homme ou de l'homme nouveau. Plus nous évoluons vers l'homme nouveau, en communion avec Dieu, plus notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Plus nous sommes dans le vieil homme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le vieil homme? C'est l'homme qui se replie sur son égoïsme. Alors là, le corps devient le lieu de satisfaction de nos égoïsmes, de nos désirs les plus égoïstes. Dans tous les domaines. Il y a bien sûr la nourriture, la sexualité, etc. Mais il y a des quantités d'autres choses où la corporéité nous permet cette... À notre égoïsme de se repaître en quelque sorte de tout ce qu'il peut prendre, hein, les richesses, l'avoir, le savoir, etc. C'est tout ça conforte le vieil homme. Donc effectivement, revenir dans le vieil homme, le vieil homme nous suit jusqu'à la mort, hein, je veux dire, il est de moins en moins fort si on chemine vers Dieu. Mais il est toujours un peu là. Et donc, et aussi, il porte aussi la peine de, tout ces, de toute cette pesanteur de péché personnel et puis celui aussi en partie de l'humanité. Donc, c'est sûr qu'il y a un côté, non pas du fait que c'est de la matière peut être, sera glorieuse à la résurrection, et donc la matière ou le corps n'a rien de mauvais en lui-même. Mais le péché originel, cette espèce de repliement de l'être humain sur son égoïsme, sur sa volonté de puissance, voyez, tout l'ego, ce qu'on appelle l'ego, eh bien, le corps le véhicule et le transmet par des quantités de penchants mauvais. Parlant avec des parents, ils m'ont dit que c'était une des choses les plus douloureuses, c'est quand ils ont des enfants et qu'ils voient l'enfant grandir, et à partir d'un certain moment, ils voient à la fois ce qu'ils ont hérité comme bons penchants qui viennent d'eux, mais aussi leurs défauts, leurs propres défauts. Et comme l'enfant ne les maîtrise pas au début, et comme il me disait l'un d'eux, on se voit comme caricaturé dans ses propres enfants, dans les défauts. Ce sont nos défauts, mais l'enfant, il ne les a pas encore commencé à lutter un peu contre ses défauts. Donc ils sont énormes. Donc il y a une transmission, vous voyez, d'une mauvaise inclination, c'est ce que nous appelons le péché originel. Où l'humanité se communique à travers le corps, à travers la corporéité, parce que l'âme est créée immédiatement par Dieu, tandis que le corps vient de nos parents. Et il porte la pesanteur, disons, de toute l'histoire de péché de l'humanité aussi. Donc ça passe par le corps qui en lui-même est bon, mais c'est son penchant qui est mauvais. Penchant que l'homme a introduit depuis les origines et que tous les péchés ensuite aggravent en quelque sorte. Donc, vous voyez, dès que vous voyez ce retour difficile comme venant du fait que c'est de la corporéité, de la matérialité, etc., vous êtes dans un contexte de dualisme gnostique, qui n'est pas chrétien. Le Dieu, il y a un certain combat chez saint Paul, avec « qui me libérera, dit saint Paul, de ce corps qui me voue à la mort ?» À cause de tous ces penchants mauvais qu'on a, eh bien, ça peut me vouer à la mort. Mais ça ne vient pas de la corporéité, ce n'est pas quelque chose qui touche à l'être. C'est une sorte de penchant, de mauvaise orientation, de mauvais exercice de ce que doit être notre corporéité. Et ça vient du péché. Pour lui, c'est le péché. Donc si on ne place pas ça, les expériences dont il est question, à la lumière d'une anthropologie biblique, on va vers des anthropologies de type gnostique. Et ça s'accompagne aussi de spiritisme, transmigration des âmes et spiritisme. C'est-à-dire que si l'âme est dans un corps, comme dans un sépulcre, ou comme à la rigueur dans un véhicule, comme disent les bouddhistes, eh bien, elle migre. Et cette âme qui s'est perçue comme séparée du corps, flottant dans la pièce, etc., passant, voyant même dans la pièce à côté, eh bien, on peut dire, du coup, ça veut dire que l'âme n'est pas unie au corps. Autre chose, vous voyez, c'est qu'elle se perçoit comme déconnectée du corps, au plan de la sensibilité. Mais en fait, cette âme est toujours unie au corps. Au cours de l'expérience décrite, elle reste quand même métaphysiquement unie au corps. Elle n'est pas déconnectée, elle est déconnectée au niveau de sa sensibilité, ce qui est très différent. Et donc elle se perçoit, elle a des perceptions permises et peut-être même, je le pense, voulues par Dieu, pour que la personne, n'ayant plus cette part de pesanteur qui lui vient non pas du corps, mais à travers le corps de son propre péché, puisse s'ouvrir à quelque chose d'infiniment supérieur. Mais ça ne la déconnecte pas du corps. Les personnes qui ont une expérience de mort imminente ne sont pas mortes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas. L'âme n'est pas séparée du corps. Même quand elle se voit séparée du corps, elle ne l'est pas. On est au niveau de la perception, si vous voulez. D'une certaine manière, cette perception est comme une sorte d'illusion, mais qui est fondée. Qui est fondée, ce n'est pas une hallucination. C'est une illusion fondée. Ça, en ce sens que, de même, si vous voulez, que quand on vous anesthésie, vous ne sentez rien, eh bien, quand vous avez cette expérience, toute votre sensibilité corporelle est déconnectée. Mais l'âme elle-même n'est pas déconnectée, elle appartient toujours à ce corps. Et c'est pour ça qu'elle revient dans ce corps. Et elle ne revient pas dans ce corps comme dans une condamnation. C'est pas un tombeau. C'est son corps. Elle est l'âme de ce corps. Donc il y a une unité substantielle de la personne humaine entre son âme et son corps. Et là, tout le spiritisme, la transmigration des âmes, la réincarnation, etc. Vous comprenez, vous déconnectez l'âme du corps, et donc ces âmes, après, ben, on va pouvoir elles vont pouvoir aller dans d'autres corps, puisqu'il n'y a pas d'appartenance. Alors qu'en fait, ce que nous dit la révélation, c'est que Dieu crée l'âme pour ce corps, fruit de l'union de nos parents. Donc c'est l'âme de ce corps. Notre personne est inséparablement âme et corps. Elle est l'âme de ce corps. C'est ce qui est formulé en théologie. L'âme est la forme du corps. C'est elle qui organise le corps. La preuve, c'est que dès que la personne meurt, métaphysiquement, immédiatement, le corps commence à se décomposer. Décomposer, D-E-composer. C'est-à-dire qu'il se décompose dans la pourriture, mais il se décompose pourquoi ? Parce que la forme substantielle de la personne humaine n'étant plus là, ce sont des formes inférieures, de vie inférieure, pas celle de tout ce qui entre en décomposition, au sens banal du terme, qui prennent le relais. Parce qu'il n'y a plus cette unité qui les tient ensemble. Donc vous voyez à quel point l'âme, notre âme a été faite pour notre corps. Dieu l'a créé pour notre corps. C'est ça le sens le plus profond de la procréation. Ce qui est parent, c'est ça, c'est que Dieu a donné âme au fruit de votre union corporelle. C'est pas que Dieu aurait un stock d'âme comme ça, aussi, parce que c'est ça, dans le gnosticisme, il y a un stock d'âmes qui sont là quelque part, et puis Dieu toc, envoie dans ce corps et puis dans une autre, qui sont un pur véhicule. Ça c'est dans l'interprétation, vous voyez. Et effectivement, certains éléments du vécu pourraient être interprétés comme cela, mais ils peuvent aussi être interprétés de manière chrétienne. Et c'est très important. Et donc, si vous voulez, mon livre essaye de resituer un peu tout cela en donnant un cadre général d'anthropologie chrétienne dans lequel on comprend mieux tout ce qui se passe à l'approche de la mort, dans la mort et même dans l'au-delà, les fins dernières. On a parlé du ciel, on a parlé de l'enfer, on a fait allusion au purgatoire. Voilà, tout ça finalement aboutit à quelque chose de définitif. Et c'est important aussi d'avoir. Mais dis, moi ce qui m'est apparu, c'est que les prêtres, on a été marqués beaucoup, ma génération, le docteur Tellier qui est exactement de mon âge, le sait très bien aussi, on a été tellement marqués par le matérialisme qui régnait, par le marxisme, par le freudisme, par le nietzschéisme, etc., que on n'a plus du tout parlé des fins dernières. Benoît XVI l'a dit à plusieurs reprises que c'était quelque chose qui le préoccupait beaucoup. Les prêtres ne parlent plus du ciel, ne parlent plus de l'enfer, ne parlent plus du purgatoire. Du coup, les gens, ils voulaient savoir. Et ils ont trouvé New Age, spiritisme, puis surtout quand les gens ont perdu un être cher, eh bien, ils ont besoin de pouvoir vivre une certaine communion avec lui. Si on leur donne rien du tout, ils iront tourner des tables. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et je crois que c'est vraiment j'ai essayé de pallier un peu, et ce livre, j'ai eu plein de gens qui m'ont écrit pour me dire mais merci parce que on n'avait rien. C'est écrit en 2000, il n'est pas récent, mais il a continué à être réimprimé depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, je m'arrête là parce que je voudrais laisser des questions sur mon intervention avant que nous passions aux questions générales avec les deux autres intervenants de la